Nous sommes maintenant dans le studio avec Philippe Lemonnier. Philippe Lemonnier photographie, voyage à pied et écrit. Il vient de publier La Grande Traversée des Alpes, du lac Léman à la mer Méditerranée, par le GR5. Les photographies sont de Bruno Colliot. C'est aux éditions Ouest France. Il est aussi l'auteur d'un livre intitulé Le voyage à pied, chronique de la pérégrination, aux éditions Artaud. Alors Philippe Lemonnier, pourquoi cette envie de partir sur les routes ?
C'est une question difficile.
On commence tout de suite fort. Là.
On commence toujours pourquoi l'envie ? Parce que je vais répondre un petit peu comme Paul Meurant, parce que ailleurs est un mot plus beau que demain.
Ah bah, voilà.
Je trouve qu'un ailleurs c'est plus beau que demain, et cette envie de la route, je crois qu'elle existe, a toujours existé, l'envie de partir ailleurs, et j'ai voyagé de multiples façons, mais je crois que depuis un peu plus de 40 ans, c'est la façon où j'ai senti, j'ai cru être le plus en liberté, c'est à pied.
Alors vous n'avez pas toujours été un adepte de la randonnée, ni d'ailleurs un écrivain voyageur, vous aviez une vie avant.
Alors, adepte de la randonnée, peut-être pas, mais adepte du voyage à pied, oui, depuis un peu plus de 40 ans, j'ai toujours aimé voyager à pied, même si je n'ai pas fait que ça. J'ai aussi voyagé à cheval, en canoë et par d'autres moyens de transport. Maintenant, quant à être écrivain voyageur ou photographe, non, c'est une vie nouvelle qui a quand même une quinzaine d'années maintenant, qui est une vie à vocation ethnographique.
Et alors, vos activités avant le voyage à pied et la photo ?
Oh, comme beaucoup de gens, un travail au service du monde de l'entreprise.
Et donc, ça vous préparait bien, vous pensez ?
Pardon ?
Ça vous préparait bien à voyager ?
Ah, c'est pas que ça m'a préparé à voyager. Là, j'ai eu la chance de pouvoir exercer des professions à part les toutes premières années de mes carrières, enfin pendant 25 ans avant ces 15 années que je viens d'évoquer, qui m'ont permis de voyager beaucoup. Et j'ai toujours inclus la notion de voyage dans tous mes déplacements professionnels. Je me suis toujours arrangé pour avoir cette partie voyage, cette partie découverte et prendre du temps pour voyager, même si le besoin était professionnel.
Oui, donc, mais
c'est pas quelque chose de nouveau.
C'était indispensable.
Ah, c'était vital. J'étais tout à fait partant pour travailler et voyager dans mon travail, mais il fallait que la contrepartie soit aussi le voyage au sens général où je l'entendais, en retirant le qualificatif professionnel derrière.
Alors justement, le voyage comme vous l'entendez, c'est comment ?
Le voyage comme je l'entends, c'est comment ? Difficile de résumer ce que peut le mot voyage. Ça représente tellement dans l'histoire de l'humanité. C'est même peut-être la chose la plus importante, comme le voyage à pied. Ça fait des centaines de milliers d'années que l'on voyage à pied. Il y a que 150 ans qu'on choisit, depuis l'avènement du train et ensuite des nouvelles technologies de transport moderne, qu'on choisit de voyager autrement qu'à pied.
C'est vrai que ce qui est important, c'est le mot choisir que vous venez de dire.
Oui, c'est le mot choisir. Voilà. C'est un luxe. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, je choisis, et de plus en plus, mais depuis très longtemps, mais de plus en plus, je choisis de voyager à pied. Et c'est vrai que ce choix est un luxe parce que on pourrait presque consacrer un peu de temps à tous les empêchements aujourd'hui de voyager à pied. De par le monde. Beaucoup de choses existent, des empêchements, et si on veut citer qu'une seule chose, c'est qu'aujourd'hui on arrive à supprimer des chemins ancestraux, les couper par les autoroutes, de ne plus pouvoir, l'homme ne peut plus marcher droit, ne peut plus traverser une région ou un lieu sans être par moment obligé d'utiliser une voie bitumée, mais surtout une voie qui ne va pas tout droit, qui est une sorte de bretelle pour les automobiles sur lesquelles l'homme est obligé parfois, auquel l'homme est obligé d'avoir recours.
Alors si c'est un luxe de voyager en marchant aujourd'hui, c'est aussi le luxe de la lenteur. Et vous citiez dans votre ouvrage Le Voyage à pied, vous citiez Rousseau qui disait « Quand on ne veut qu'arriver, on peut courir en chaise de poste, mais quand on veut voyager, il faut aller à pied. »
À pied, absolument.
Voilà, donc vous, comment vous vous situez par rapport à Rousseau, par rapport à la chaise de poste et par rapport à la marche ?
Bon, un certain nombre de choses, je ne dirais pas que je partage toute la philosophie de Rousseau, mais quand même une partie, je ne crois pas, autant que je me souvienne, je crois que Rousseau développe l'idée que les hommes sont bons et que c'est la société et la culture qui les dénature. Je je ne partagerai pas complètement cet avis-là. Par contre, sur le fait qu'effectivement, si on veut voyager, réellement, il faut aller à pied. Et on peut effectivement dire aujourd'hui, dans le monde agité dans lequel nous vivons, qu'aller à pied, c'est retourner à la lenteur. Ce n'est pas tout à fait ma perception des choses. Je pense qu'on retourne plutôt à un rythme primordial plutôt qu'à la lenteur. La lenteur étant une appréciation relative par rapport au monde. Alors que le rythme primordial est quelque chose qui me semble ancré en nous. Et c'est plus ce retour au rythme primordial qui m'intéresse dans le voyage à pied. Et notamment cette notion que l'on vit dans un espace-temps complètement différent une fois qu'on a accepté, non pas de partir 2-3 jours, mais une fois qu'on a accepté l'idée de voyager au long cours, réellement à pied.
Voyager au long cours, ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois.
Absolument, ça veut dire vraiment plusieurs semaines, au moins plusieurs semaines à défaut de plusieurs mois, mais au moins plusieurs semaines. C'est-à-dire d'avoir le temps de s'immerger dans le voyage, de ne pas être, on peut tout à fait partir marcher une semaine, il n'y a aucun problème, au contraire. Mais bon, on part une semaine, on sait qu'au bout de la semaine, on a un train, on a la douche, on va retrouver tout son univers d'accessoires qui nous tient tous. Hein. On n'est pas du tout dans le même esprit que lorsque, non pas qu'on a... C'est pas une idée de non-retour quand on part au long cours, mais c'est qu'on n'a pas besoin et on n'a surtout pas l'idée du retour. Elle n'est pas encore là. Ce qui fait qu'on a une perception du monde et une perception du temps qui est nettement différente lorsqu'on est au long cours, me semble-t-il.
Est-ce que dans cette expérience, vous cherchez le vide ?
Est-ce que je cherche ?
Le vide. Parce que là, vous
Je ne sais pas répondre de cette façon-là. Il faudrait que je réfléchisse, savoir si ce que c'est la vacuité, qu'est-ce que ce vide, est-ce que ce n'est pas plutôt rechercher à faire un vide pour le remplir d'autre chose. Je crois que c'est plutôt ça. C'est plutôt chercher à faire un vide par rapport à tout ce qui nous... tout ce qui est notre quotidien de nos sociétés occidentales notamment. Et c'est effectivement de vider ce quotidien qui, lorsqu'on y réfléchit, est très accessoire pour le remplir de choses peut-être, tout au moins à mon sens, plus essentielles.
Oui, se dépouiller en quelque sorte.
Ah, j'aime beaucoup ce mot-là. Effectivement, par nécessité, le voyageur à pied ou le nomade est obligé de se dépouiller. Il n'a pas d'autre choix. Et effectivement, je crois que le dépouillement qui n'est pas le dénuement, qui est une chose complètement différente, le dépouillement est la condition sine qua non pour le voyage à pied, le confort, certes, mais aussi pour aller à la rencontre des autres. Il n'y a que si on est dépouillé qu'on peut réellement aller à la rencontre des autres et faire que tout ce que, comme le dit Jacques Lacarrière, tout ce qui, le jour où on est dans le voyage, c'est quand tout ce qui nous semble étranger ne nous est plus étrange.
Oui, ça c'est une belle phrase. D'ailleurs, j'en avais relevé une autre de Jacques Lacarrière, notre maître à tous, bien sûr. Il avait dit « Errer, c'est s'enraciner dans l'éphémère ». J'avais trouvé ça très beau aussi.
Alors, c'est une très, très, très belle phrase. Et je pense que plus que personne, Jacques Lacarrière, avec son expérience de 20 ans de voyage, c'est 20 ans en Grèce, même s'il a fait quelques allers-retours en France, il a quand même vécu la Grèce 20 ans à pied, effectivement, il s'est enraciné dans l'éphémère, d'autant plus que lui se voulait avant tout cigale et surtout passer en fourmi.
Mais finalement, c'est peut-être la définition de tout voyageur au long cours à pied. C'est-à-dire que ça dure tellement longtemps, ça déplace notre temps habituel, qu'à un moment, on a l'impression qu'on ne vit plus que comme ça, qu'on est... Voilà, que c'est...
Ça ne peut pas être autrement, parce que le voyage à pied, vous amène, toujours au long cours, hein, je parle, vous amène dans un autre monde où l'espace et le temps ont complètement changé. Et à partir de ce moment-là, il y a deux solutions. Soit vous le vivez vraiment au sens profond du terme, et là, vous êtes effectivement enraciné dans cet éphémère, parce que c'est pas après le monde change aussi, mais ne change pas au même rythme que le TGV. Ou alors, vous subissez, vous vous enracinez pas, mais dans ces cas-là, vous subissez, et ce n'est plus du voyage, c'est tout ce que l'on veut, on peut mettre plein de qualificatifs, mais c'est plus du voyage.
Mmh. Est-ce que vous pensez que l'homme est un animal nomade ?
Oui, je pense que fondamentalement, l'homme est un animal nomade. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens qui sont sédentaires sont en mesure de redevenir nomades ? Non, je ne crois pas. Par contre, ce que je crois, qui me semble intéressant tout au moins, c'est que le voyageur à pied, celui qui part au long cours, pendant un instant, pendant le temps qu'il est en voyage, arrive à être non pas un nomade, mais un trait d'union entre le monde nomade, nous ne redeviendrons pas nomades, et le monde sédentaire. Je pense qu'à cette capacité de trait d'union, c'est-à-dire d'être capable de comprendre ces deux mondes, parce que c'est ces deux mondes qui ne se rejoignent jamais. Le nomade ne comprend pas le sédentaire, surtout le sédentaire ne comprend pas et refuse le nomade.
Ça veut dire que vous faites le trait d'union entre le chasseur-cueilleur et l'agriculteur néolithique, en quelque sorte.
Oui, c'est un trait d'union Oui, c'est un trait d'union, c'est-à-dire qu'on est capable de comprendre aussi bien les uns que les sédentaires, puisqu'on vient de ce monde, enfin tout au moins pour nous, occidentaux, et on arrive à comprendre comment peut penser, comment peut vivre un nomade. Mais ça ne fait pas de nous un nomade pour autant.
Non, bien sûr, puisque vous revenez chez vous. Vous avez
oui,
un chez vous
revient,
d'ailleurs.
Oui, parce qu'on revient, puis parce qu'on a trop... Il y a un passé trop important. Oui. N'oublions pas quand même, le nomade n'est pas l'errant. Mm-hmm. Je ne parle pas d'errant, ce qui est encore autre chose.
C'est quoi la différence partir... C'est quoi la différence?
Le nomade, il est sur un territoire qui est plus ou moins grand, qui est plus ou moins confortable, mais il est sur un territoire. Mais ça peut être un territoire très loin, qui est très grand. Ça peut être l'Europe, comme certains nomades, comme certains Roms. Ça peut être l'Europe, le territoire. Mais c'est son territoire. L'errant, ben, il ne sait pas où il va. Il erre, et puis voilà, ça me semble une différence.
Un territoire pas délimité. Alors, dans le chemin, il y a deux dimensions, une dimension physique et une dimension spirituelle. Laquelle est la plus difficile?
Ah, la dimension, c'est une question de fond que vous posez là, vraiment. Alors, la plus difficile, c'est certainement d'être à pied, parce que la partie physique, si tant est que, encore une fois, lorsqu'on est au long cours, soit vraiment on s'est cassé, entre guillemets, si vous me passez l'expression, et auquel cas il faut s'arrêter, surtout pas poursuivre, soit on a acquis une force et une résistance au fil des jours, qui fait que ça devient plus facile. Mais c'est le premier pas physique qui est le plus difficile lorsqu'on part. Le spirituel, on ne maîtrise pas, enfin, me semble-t-il. On n'a pas un petit nuage qui peut... On ne dit pas, tiens, j'ai un petit nuage au-dessus de moi, je suis en train de penser, là, je suis un grand penseur. Non, non, le spirituel, il naît, certes, de l'effort physique, il naît pas que de l'effort physique, mais il naît du voyage à pied, de la rencontre, de l'altérité. Mais il se développe tout seul, on ne fait pas un effort pour le spirituel. Enfin, tout au moins, à mon sens, il ne faut pas faire d'effort pour le spirituel. Ça doit venir. Ça vient ou ça ne vient pas, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas inventer. Que partir à pied, oui, il faut dire, ce matin, je ne suis pas très en forme, mais je suis sur la route, donc allez, un premier pas, et puis finalement, en général, au dixième pas, on a complètement oublié.
Alors, cette dimension spirituelle, vous l'avez peut-être développée sur le chemin de Saint-Jacques, parce que finalement, cette première question enchaîne sur le chemin de Saint-Jacques. Vous auriez pu faire des milliers d'autres chemins, vous en avez fait d'autres d'ailleurs, mais vous avez fait aussi celui-là, et vous avez écrit un livre. Et donc, ce chemin de Saint-Jacques, c'est pas innocent?
Non, c'est pas innocent. Le chemin de Saint-Jacques, effectivement, est peut-être propice à une spiritualité un peu plus importante. Et quand je dis spiritualité, je dis bien spiritualité, je ne parle pas de confessionnalité. Je parle bien de spiritualité. Le chemin de Saint-Jacques, effectivement, est un peu plus propice. Il faut quand même relativiser ceci par le fait que, me semble-t-il aujourd'hui, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle peut apparaître comme ayant un caractère plus spirituel. Je dirais autre chose. Je dirais que, de manière générale, les gens qui partent à pied sont partis plutôt comme randonneurs. Et qu'aujourd'hui, tous ces gens qui aiment marcher à pied souhaitent marcher et que ça ait du sens. Et Compostelle, effectivement, lorsqu'on le prépare, lorsqu'on l'envisage, est un chemin qui, nécessairement, quel que soit le degré de la foi ou la possession d'une autre foi, c'est nécessairement quelque chose qui a du sens. On marche dans les pas de gens qui marchent depuis 1000 ans vers un lieu, donc c'est chargé peut-être de force tellurique, tout au moins j'en suis convaincu, mais c'est aussi chargé de toute d'une histoire, c'est chargé d'un passé, c'est chargé de légende. Donc on marche, ce chemin a un sens. Alors il est peut-être plus propice à la spiritualité. Ceci étant, je crois quand même que l'expérience du voyage à pied, et notamment en ayant travaillé sur d'autres types de voyages à pied beaucoup moins réjouissants que ceux que nous évoquons, qui sont les exils, qui sont les exodes, il s'est toujours passé quelque chose lorsqu'on relit les témoignages pour ces gens qui ont été amenés même dans des conditions dramatiques à voyager à pied. Et j'en veux pour preuve, je pense que tout le monde a vécu ça dans sa famille, lorsque des gens se sont évadés, ont fait des exils, des exodes, vous les écoutez, ils n'ont peut-être jamais marché à pied en dehors de cette expérience. Par contre, pendant des décennies, le dimanche après-midi, ils vont vous raconter ce voyage.
Oui, c'est le voyage
marquant. Ça les a marqués. Et je crois que c'est la grande force du voyage à pied. C'est que les choses, compte tenu qu'on est au pas, qu'on fait 75 à 80 cm à chaque fois qu'on avance, compte tenu de ça, je crois qu'on s'imprègne de tout ce qui se passe et on vit profondément chaque chose.
Et on vit profondément l'instant présent. Alors,
on est obligé, absolument.
On va changer de tracé, on va aller sur le GR5. Alors ce GR5, j'ai lu qu'il partait de Bergen op Zoom et qu'il arrivait jusqu'à Nice, mais vous ne l'avez pas fait en entier.
Non, je ne l'ai pas fait en entier. Je me suis intéressé à la partie qui allait du lac Léman jusqu'à la mer Méditerranée, qui était déjà un morceau
déjà pas mal,
assez
oui.
sympathique à faire.
Vous l'avez fait en combien de temps?
Moi, j'ai mis 30 jours.
Bon.
J'ai mis 30 jours. C'est un voyage qui, selon le rythme que l'on souhaite aborder et la capacité physique, demande entre 25 et 45 jours. Je l'ai fait en 30 jours parce que, d'abord, j'aime voyager au long cours. J'aime bien ne pas couper le voyage. Et deuxièmement, parce que j'aime bien... Je ne marche pas très, très vite. Seulement, je marche longtemps. Moi, j'aime bien marcher, partir le matin au lever du jour. Et je m'ennuie dans les gîtes ou dans les refuges. Donc, j'essaye d'arriver entre 17 et 19 heures. Donc, ce qui fait que je marche longtemps. Et ce qui fait que... un pas derrière l'autre, les distances se font.
Oui, alors ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que là, on est dans les Alpes et que ça monte et ça descend.
Alors ça monte et ça descend, ça représente, les Alpes représentent environ 30 000 mètres de dénivelé positif et 30 000 mètres de dénivelé négatif. Et si on veut donner une comparaison pour essayer d'imager un petit peu ce propos, il faut imaginer l'Everest qui fait 8 000 mètres d'altitude à peu près, au bord de l'eau, et ça représente quasiment d'ascensionner 4 fois l'Everest et de redescendre 4 fois de son ascension.
Bah, c'est pas rien quand même, c'est pas trop fatigant.
Non, c'est pas fatigant. Il y a, dans le voyage à pied, enfin dans tout voyage, mais surtout dans le voyage à pied, il y a deux solutions. Vous partez, vous êtes plus ou moins en forme, on est plus ou moins en forme, on a notre vie citadine, même si on essaye d'avoir une certaine hygiène de vie, on a nécessairement une vie citadine. Et après, il va se passer deux choses. Ou soit tous les jours, vous renforcez un petit peu, ou soit on se détruit un tout petit peu. Ce que je dis souvent, c'est que si on va de moins en moins bien, il faut s'arrêter, il faudra repartir une autre fois. Pour moi, le voyage à pied, même si c'est sur Compostelle, c'est pas la mortification, c'est pas la souffrance, ça doit être le plaisir.
Bien sûr, c'est la première chose.
Ça doit être vraiment le plaisir. Donc, il ne s'agit pas de dire « je vais m'endurcir » pour le fait de s'endurcir, de dire « non ». Il s'agit que, de façon naturelle, de plus en plus, on est habitué à nos pas, on est habitué à nos chaussures, on est habitué au froid, on est habitué à attendre, à avoir besoin d'eau, on est habitué au fait d'avoir faim. Et finalement, on rentre dans un autre système de vie qu'il faut accepter, certes, mais... tous les plaisirs que l'on peut avoir, enfin tout au moins que j'ai à voyager à pied, remplacent largement ce que pour certains pourraient considérer comme de l'inconfort et ce que je considère, pour ma part, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme du dépouillement.
Alors, votre prochaine randonnée après les Alpes ?
Alors, la prochaine randonnée, je pense que je vais, puisque j'ai la chance d'avoir un autre livre à réaliser, donc ça va être la Côte d'Opale, donc c'est à peu près plat. Sinon, le voyage, ce que je prépare, et qui me tient beaucoup à cœur, que je prépare depuis 2 ans, et je n'ai pas pu mobiliser le temps nécessaire, puisque j'estime qu'il faut 5 à 6 mois pour le faire, c'est donc un travail à vocation ethnographique, mais surtout un voyage, c'est de de descendre le Danube, de sa source, c'est-à-dire du lac de Constance, jusqu'à son delta, c'est-à-dire jusqu'à la mer Noire. ce qui représente en kilométrage, mais c'est pas le plus important, ça représente à peu près 2175 km, mais c'est surtout traverser l'Europe et l'Europe d'aujourd'hui au bord d'un fleuve qui est un fleuve mythique qu'Hérodote déjà appelait à son époque l'Istère. On parlait déjà de ce fleuve et ça, voilà, voilà mon prochain rêve, parce que ce sont des rêves.
Un beau programme en tout cas pour les 20 ans de la chute du mur de Berlin.
Absolument, très bonne idée, je n'avais pas pensé à ça, mais et c'est oui. Très très bien.
Il vous faut partir absolument en 2009 parce qu'après ce sera 21 ans.
Ça va être, oui mais bon ça fait rien, je pense qu'on peut fêter quand même le mur de Berlin, je pense que le mur de Berlin, on peut le fêter tous les ans.
Oui, effectivement. Eh bien on vous réinvitera dans ce studio pour raconter ce périple. Philippe Lemonnier, merci. On peut lire actuellement Le Voyage à pied aux éditions Artaud et La Grande Traversée des Alpes aux éditions Ouest-France.